Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au NRV, l'émission qui voit double. Vous le savez, cette année, 18h, c'est en avant-première sur franceinter.fr en podcast et 22h minuit à l'antenne comme tout le monde. Ce soir, soirée en piste avec nos invités live, Yolande Moreau et Christian Olivier des Têtes Raides en duo disent, chantent et performent Prévert. Il y a des feuilles mortes qui se ramassent à l'appel, il y a Adrien qui fait sa mauvaise tête, il y a la quéquette à Jésus-Christ et je ne fais pas tout l'inventaire. Yolande Moreau et Christian Olivier, bonsoir.
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 À vos côtés, Denis Lavant en Auguste pour une crise existentielle, mais le clown a le sourire au pied de l'échelle. Denis Lavant, bonsoir.
Bonsoir.
Il y aura de l'algorithme dans l'air ce soir aussi, Marion Guilbeault.
Il écoute ceci, il aimera peut-être cela, entre Bobino et le Pont Neuf, un algo très parisien, c'est celui de Denis Lavant.
Et dans le NRV de la suite ce soir, 5 femmes puissantes, 5 reporters de guerre sur le front, Benoît Legan.
Oui, elles sont grands reporters, JRI ou photoreporters. Elles racontent le Yémen, la Syrie, le Rwanda ou l'Afghanistan. Elles seront 5 à nous en parler tout à l'heure. Patricia Lémonière, Anne Barrier, Liseron Boudoul, Marine Jacquemin et Véronique de Vigry.
Le NRV, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Soirée sourire au pied de l'échelle pour tous nos invités ce soir. Denis Lavant en Auguste qui remet son art en question, c'est au Théâtre de l'Œuvre à Paris. Yolande Moreau et Christian Olivier en duo pour un collage Prévert au Théâtre du Rond-Point à Paris avant de repartir en tournée. Denis Lavant, Yolande Moreau, vous vous connaissez, vous avez déjà joué ensemble, j'ai regardé, j'ai pas trouvé.
On s'est rencontrés il y a longtemps.
Je crois, on se croise.
Ouais.
Jamais tourné ensemble.
Ben non,
c'est
quand même incroyable. Pas, non. C'est étonnant. Non.
Ben oui, les réalisateurs n'ont pas de...
Avec plaisir.
Christian Olivier, vous connaissez tout le monde?
On s'est croisé
avec Yolande Moreau depuis ça, c'est depuis, une belle histoire.
Depuis un moment maintenant.
Et Denis Lavant.
Et puis Denis, on s'est croisé sur 2-3 événements, mais on n'a jamais.
Jamais collaboré.
En tout cas,
jamais
collaboré joué, ensemble.
Donc ce soir, c'est une première. On va parler théâtre et musique ensemble. Ouais, c'est toujours un terme un petit peu difficile. Il y a toute une histoire derrière pour collaborer. Comme vous voulez. Alors, on va parler théâtre et musique ensemble ce soir. Mais d'abord, Yolande Moreau, la dernière fois que je vous ai vu, c'était au cinéma. Vous aviez une drôle de tête. Vous étiez complètement lifté. Une chirurgie esthétique à fond. C'était dans I Feel Good de Delépine et Carverne, aux côtés de Jean Dujardin. Vous vous trouviez comment?
Bah, on a essayé de m'arranger, quoi.
Complètement lifté. C'était quoi ce maquillage?
C'est une fausse bouche et puis avec des fils ils tirent la peau. On est accroché en haut. Je vous raconte pas la délivrance quand c'est fini.
Et alors vous trouvez comment?
Bah monstrueux.
C'est vrai, c'était une
comme
bouche.
Comme des fois les ravages de la chirurgie esthétique, mais.
Alors ce soir, c'est Prévert au programme pour vous deux, Yolande Moreau et Christian Olivier des Têtes Raides. L'idée, c'est de dire, de chanter le répertoire de Prévert. Je sais que ça vient de vous, j'imagine, hein, Christian Olivier, parce que vous aviez déjà signé. Des albums sur Prévert, c'est une obsession pour vous?
Non, puis ça vient pas que de moi. Ça a été un petit peu pas le hasard, mais on s'est rencontrés sur ce projet avec Yolande puisqu'il y avait une expo en Suisse.
Des collages de Prévert.
Voilà, ouais. C'est ça.
À la Fondation Michalski.
Voilà, et donc au départ on devait faire 2 soirées de lecture chacun de notre côté, et en fait on s'est croisés puis on a monté le projet ensemble, quoi.
Mais Prévert, quand même, dans votre parcours, même dans les Têtes Raides, il y avait cette dimension-là.
Ouais. C'est un des premiers auteurs que j'ai mis en musique, quoi. Voilà, c'est vrai que dès que je me suis mis à écrire de la musique, très rapidement, je suis parti sur Prévert, bien sûr. Ouais, il y a eu plusieurs textes, mais ensuite d'autres poètes, bien sûr. Mais là, on est revenu à cette histoire de Prévert. Et, ouais. Et puis, je sais pas, dans le temps, aujourd'hui, ça résonne. Il y a quelque chose qui résonne, et donc...
Sur les mouvements sociaux,
on est
sur
parti là-dessus
la religion.
Avec Yolande et voilà, l'idée c'était vraiment de refaire entendre Prévert aujourd'hui, quoi.
Et puis ça s'entend particulièrement. Il y a des échos par rapport aux manifestations que l'on peut voir dans toute la France. On en parlera tout à l'heure justement sur cette dimension sociale de Prévert. Vous, Yolande Moreau, Prévert, ça remonte à vos débuts, les cours de déclamation, j'ai pu lire.
Oui, et je me suis rappelé aussi que à l'époque, je jouais de la guitare, je gratouillais et Démons et merveilles, je l'avais mis en musique.
Vous aviez créé la musique?
Oui, quand j'avais une quinzaine d'années, quoi.
Vous chantiez déjà un peu à l'époque?
Ouais, je gratouillais.
Mais chanter, c'est pas la même chose.
Bah oui, mais chanter, gratouiller, puis je trouvais qu'il écrivait mieux que moi. Mais sinon, au cours de déclamation, il y a des textes d'ailleurs qui sont dans le spectacle, comme Le petit bruit de l'œuf que j'ai fait au cours.
Sur la Croix des Temps.
C'est quoi?
Ouais. Le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir du temps. Il est terrible ce bruit quand il résonne dans la tête de l'homme qui a faim.
Ah, vous
c'est,
aussi
c'est, ouais.
C'est celui-là même.
Vas-y, il n'y en a pas deux quand
mais
même.
Tu ne joues pas au rond-point en ce moment, non?
Non, Denis Laborde, ah, il est partout. Non,
moi, je vais bien aller à l'œuvre.
Vous connaissez aussi donc le répertoire de Prévert, Denis Lavant?
Moi, j'aime bien Prévert. Mais je trouve ça une super bonne idée de le reprendre, de le refaire entendre. Parce qu'il a été un peu aplani par la chanson.
Justement, ah oui, vous trouvez?
Ah oui, bah forcément, il y a la musique des fois qui... la ritournelle qui prend le pas sur le sens. Donc c'est bien de le refaire...
Et de le remettre en musique, parce que ce aussi, qui est intéressant, ouais, voilà, c'est ça. Pas. C'est-à-dire de redonner une autre partition musicale à une œuvre qui a été chantée, on le sait, par Yves Montand, par, et par d'autres. Mmh. Ça, c'était important pour vous, dès le départ? De ne pas reprendre et de ne pas chanter
disons,
dans le
pas
des autres?
Je ne me suis pas posé la question, ça s'est fait. Voilà, c'est vrai que... Moi, dans mes, je dirais que dans mes références que j'avais de gens qui avaient chanté Prévert, c'était Marianne Oswald, Marianne Oswald et Reggiani. Quoi, pour moi, c'était un petit peu les deux références. Mais ensuite, quand je me suis mis sur le travail, j'ai pas, voilà, je me suis pas posé de questions.
Et Montand, non alors, Montand.
Quoi
Ah ouais. Vous aussi
Ouais.
Ah ouais, pas Montand.
Pas vraiment, non, mais peut-être sûr, moi, j'ai aussi...
Pour quelle raison
Je
avez
sais
une
rien,
réticence tous autour de mon
moi, j'aime bien comment ils sortent mandarine,
Joli
fruit.
Il y a des choses que je retiens, comme le à bicyclette et tout ça, que je trouve que c'est des chefs-d'œuvre. J'adore. Mais sinon, non, je suis pas spécialement...
Si, moi, je trouve qu'il y a une grande sensualité.
Eh ben, il va falloir convaincre vos collègues.
Mon temps, oui, oui. Marianne Oswald, respect total, bien sûr, qui est beaucoup moins connu, quoi, qui est plus... Mais Montand, il y a des choses, ouais, ça reste bien, ça vibre bien, quoi.
Vous chantez un peu, Denis Lavant, vous?
Oui, mais quand il n'y a personne.
C'est vrai? Jamais on vous a demandé de chanter sur un spectacle?
Non,
vous avez travaillé avec beaucoup de musiciens, vous avez partagé la scène
non,
avec des chanteurs.
C'est le domaine du chant, je ne sais pas pourquoi j'y ai échappé jusque-là.
Alors que vous savez tout faire?
Non,
vous savez,
pas la cuisine.
Ah, vous savez danser, vous savez jouer, vous savez jouer de n'importe quoi. Tout à l'heure, je vous ai vu glisser dans votre poche quelque chose
quoi
avec lequel vous faisiez du bruit. C'est quoi?
Ça, c'est un...
C'est quoi?
C'est un sifflet à nez, ça.
Moi,
j'ai des trucs pour me dire... À nez, oui. Bon, souffle par le nez, on fait la bouche qui fait caisse de résonance.
Et vous avez...
C'est un apôt à singe, à l'origine.
C'est vrai?
Oui, c'est vrai, oui, absolument. Ça vient d'Amazonie. Mais ça sert beaucoup pour les conteurs et... Pour les excentriques. Un peu.
Vous avez toujours ça dans votre poche?
J'ai bien d'autres choses dans ma poche.
Je peux imaginer.
Dans mes poches, si vous saviez.
Vous avez essayé de faire de la musique tout à l'heure avec une clé. Je vous ai vu.
Oui.
Pourquoi?
C'est, je sais pas.
Pierre.
Pierre, qui joue de la scie musicale.
Comment
qui m'a initié
à
la scie musicale, là, en un bref instant. Et je vais montrer que moi, je savais jouer de l'escargot. Ce qui est assez rare, quand même.
Je confirme que vous avez pris,
ton,
voilà, parce que comme c'est pas filmé,
et
vous avez pris une coquille d'escargot, vous avez soufflé
dedans. Il m'a dit, bon, on va pas faire du troc d'instruments, quoi. Il m'a dit, moi j'ai mieux, et il m'a sorti une clé, bête clé de voiture, il a fait un bruit d'oiseau, en sifflant ou en aspirant dans le trou, et mais j'ai pas eu le temps de...
Christian Olivier, vous travaillez avec des excentriques ou quoi?
Oh, bah, il y en a quelques-uns, ouais.
Alors, pour faire plus amplement connaissance, on vous a demandé à chacun et à chacune des sons qui vous ont marqué.
Ah,
un son de cinéma pour Yolande Moreau. Schubert pour Barry Lyndon.
Voilà.
Yolande Moreau, qu'est-ce que ce son représente pour vous? Qu'est-ce que ce film représente pour vous? Pour l'avoir choisi ce soir?
Je pense qu'en me posant la question, hier, j'ai réfléchi à une musique qui m'avait particulièrement marquée au cinéma. Et cette musique dans le film, et tout de suite les images me viennent à l'esprit. Bon, j'ai revu encore, je revois le film régulièrement.
C'est vrai?
Oui. Quand il passe à la télé.
Oh bah ça, c'est assez rare quand même. Sauf
oh
si
non.
Êtes... Ah oui, vous êtes abonné à des chaînes où on peut voir des films.
Mmh.
C'est pour cette raison. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce film? Vous vous projetez dedans, vous qui avez joué d'ailleurs cette période-là dans Une vie. Enfin, c'est un peu plus tard,
oui.
19e. Une vie de Maupassant. Ouais.
Ça ne me fait pas l'esprit tout de suite, mais je pense que. La grandeur, le romanesque. Voilà, puis j'adore cette musique.
Un son. Allez, générique télé pour vous, Christian Olivier.
c'est un karaoké géant parce que je vois Denis Lavant presque en train de siffler dans son sifflet à nez pour cette musique. Christian Olivier, qu'est-ce que ça représente?
Bah, c'est pour moi, c'était un peu les débuts de la télé en fait aussi.
Générique d'Histoire sans parole.
Générique de Histoire sans parole. Le générique, même l'animation visuelle était
super. Était avec super, la carriole, voilà,
ouais, avec ça. La carriole. Le mec qui offre des fleurs.
Avec le chapeau à clé.
Le chapeau. Elle se prend le lampadaire sur la tête. Enfin, et puis la musique est. Et juste pour le générique, j'adorais regarder Histoire sans parole, quoi. C'était pour moi un moment, en tout cas, et donc ça m'est bien resté, quoi.
Pour aussi le graphiste que vous êtes.
Aussi, ouais, ouais. Effectivement, autant la musique que l'animation, en tout cas, m'avait énormément plu, quoi.
Un cri primal pour vous.
Primaire.
Primaire, Denis Lavant. Primaire. Un cri de bébé, pourquoi?
Ouais, c'est gentil, là.
Moi, oui, un braillement de bébé, oui, mais Juliette Ménagie, elle est beaucoup plus soft, vraiment, vous savez.
Ça a bercé un peu mon enfance, vu que mon père était pédiatre, qu'il avait son cabinet au rez-de-chaussée de la maison, et donc des enfants braillants, ça m'a bien, ouais, c'est très familier, quoi. Ouais, c'est des souvenirs, je peux comprendre que c'était des cris, des sonorité importante, ou traumatisante, ou en tout cas, ou galvanisante, bah, c'en est un.
Je peux imaginer. Yolande Moreau, vous aviez aussi choisi ce son-là.
Oui. Ah ouais. Oui. J'ai choisi ce son-là, le même. Mais pour la naissance des enfants, on demande des sons qui nous ont marqués dans notre vie. Ouais, le premier cri des enfants. J'avais aussi choisi ma propre voix narcissique. Tu vois, quand je chantais dans la cage de l'escalier, dans le corridor.
On n'a pas trouvé, hein.
Parce qu'elle résonnait. Ah non, non.
Bah,
elle résonnait. Donc, je la trouvais très belle. Je trouvais qu'elle avait une espèce de, ce qu'on essaye, que le preneur de son met des espèces de
réverbération. Vous chantiez dans le corridor chez vous?
Je chantais surtout dans le corridor, pas ailleurs, parce qu'après, c'était moins bien.
Un son atroce pour vous, Denis Lavant. Et ce n'est pas un bébé, ça n'a rien à voir avec votre père.
Allez,
qu'est-ce que c'est?
Trouvé.
Ouais.
C'est une flûte,
oui.
Aztèque, je suppose,
un truc dans genre-là,
qui imite le cri. Et il y a un ami musicien qui m'a montré ça, parce que c'est que j'aime bien les trucs dans lesquels on souffle, et j'avais pas encore entendu. J'ai vu l'objet, et je me dis, ah, ça doit être super, ça.
Vous avez vu?
Ah ouais, j'ai entendu plutôt, vous avez vu, ouais. Je vois très bien, encore une fois.
On le repasse. Ah ouais. Et ça, c'est une flûte.
Il faudrait que j'en trouve une.
Ah bon.
En c'est attendant. une flûte à cris.
Eh ben, puisqu'on est dans la musique et pas dans les cris, tout de suite on part en live.
Rendez-vous.
En live avec nos invités, ils sont nombreux, Marion Guilbeault.
Ah, ils sont nombreux. Il y a au bandoneon, il y a Scott Taylor. Et, pas là au bandoneon, à la concertina. C'est Denis Lavant qui m'a dit ça tout à l'heure pendant les balances.
C'est un spécialiste.
Non, attention, ce n'est pas un bandoneon, un concertina. C'est un peu le ukulélé version voilà, par rapport à l'accordéon. Vous voyez,
c'est
ça. La scie musicale, elle est assurée par Pierre Payan, la guitare Serge Bégout. Voilà. Ils sont en place, Christian Olivier, Yolande Moreau, pour un extrait de leur spectacle Prévert. Pour toi, mon amour, ce soir en live dans le NRV, c'est à vous.
Je suis allée au marché aux oiseaux et j'ai acheté des oiseaux pour toi, mon amour. Pour toi, mon amour.
Je suis allé au marché aux fleurs et j'ai acheté des fleurs. Pour toi, mon amour. Pour toi, mon amour.
Je suis allé au marché à la ferraille et j'ai acheté des chaînes. De lourdes chaînes pour toi, mon amour, pour toi, mon amour.
Et puis je suis allé au marché aux esclaves et je t'ai cherché, mais je ne t'ai pas trouvé, mon amour, je ne t'ai pas trouvé, mon amour.
Merci.
Magnifique. Yolande Moreau, Christian Olivier. Pour toi, mon amour, c'est un extrait de leur spectacle Prévert. C'est jusqu'au 10 février au Théâtre du Rond-Point à Paris. Et c'est en tournée en région, comme on dit. Dole, Nevers, Caluire, Porte-les-Valences.
Porte-les-Vacances, on en manque
j'aimerais
tous.
J'aimerais bien à Porte-les-Vacances.
J'adore cette ville.
On y va.
Ah bah, je vais y habiter. Je vous préviens tout de suite. Là, on ne vous entendait pas chanter, Yolande Moreau, ni vous, Christian Olivier, ce que vous faites dans le spectacle. Ça vous plaît de chanter sur scène? Vous l'aviez déjà fait?
J'adore. Oui, je chantais beaucoup de chansons dans les spectacles de Jérôme Deschamps.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Jérôme Kiev. Moi, j'aime bien ces petits luxes, des petits cadeaux qu'on se fait.
Vous l'avez fait un peu travailler, justement? Comment vous avez fait procéder, Christian Olivier?
Elle travaille toute seule. Hein.
Ouais, mais j'imagine quand même.
Non, après, c'est plus sur le son, sur ces choses-là. Mais ensuite, on se jette dans le bain. Hein.
On entendait ce qui n'est pas de l'accordéon, mais ça m'a fait penser à quelque chose que vous connaissez bien, Denis Lavant. Je crois que dans les années 70, vous aviez connu à Bruxelles un poète musicien, Jacques Delauteur. Et il jouait...
C'est mon voisin.
Ah bon?
Tu l'as connu?
Oui.
Ah ben oui, sans blague.
Je te jure, c'était mon voisin à Québec.
Ah ouais.
Enfin, inintéressant, excuse-moi, parenthèse.
Ah non, au contraire.
Ça me... Non, donc vous le connaissez? Il était dans la rue, c'est ça? Il jouait
un comédien, poète.
Ouais. Ouais.
Et qui se mettait dans... Moi, je jouais avec le Baladin du Miroir.
Oui.
Et à l'époque, fin des années 70, il faisait partie des baladins, à l'époque, et quand on jouait pas, il se mettait dans les galeries, galeries de la Reine, les galeries, et
donc
puis
dans la rue,
avec son accordéon, avec un vieux chapeau haute forme cabossé, et il éructait par-dessus son accordéon, au stand de Cosimon, Ma Bohème, et aussi ses textes. Qui était très très beau, quoi. Il disait, je chante dans la rue, c'est pour vous que je chante, je vous en prie passant, ne pressez pas le pas, je chante dans la rue, écoutez-moi qui chante, je vous en prie passant, ne pressez pas le pas, etc. Mais j'en ai des bribes, mais ça a disparu. Malheureusement, il a mis fin à ses jours dans un hôtel pourri, Gare du Midi, quoi. Et je l'ai perdu de vue. Et même ses enregistrements, il avait fait des cassettes. Mini cassette à l'époque. Et tout ça a disparu. Mais j'ai encore
ça
cette
dans la
force,
tête, ouais,
cette personnalité éminemment poétique dans le cœur, quoi. Je t'emballe avec moi, Jacques.
Et Yolande Moreau, donc c'était votre voisin.
Oui.
Vous connaissiez son art?
C'est sa fille, c'est la grande amie de ma fille, Éléonore. Oui.
Vous étiez sensible à son art?
Oui, mais sa vie était compliquée. Donc, sa vie était compliquée. Donc, j'étais sensible à ça aussi, ouais.
Tout de suite, on repart sur Prévert, parce que je voudrais savoir quel est le Prévert que vous avez travaillé, même si j'ai vu le spectacle hier et que j'ai des éléments de réponse. Est-ce que c'est pour vous l'anticlérical?
La quéquette à Jésus-Christ n'est pas plus grosse qu'une allumette. Elle lui sert à faire pipi. Vive la quéquette à Jésus-Christ.
Alors ça a beaucoup de succès dans la salle, mais il y a aussi un autre Prévert, celui des exclus et de la lutte des classes. Mais bien sûr, ça commence toujours par Dieu.
Dieu est formidable.
Ces choses-là n'arrivent qu'à moi, dit l'homme à qui il n'arrivait jamais rien.
La révolution est quelquefois un rêve. La religion, toujours un cauchemar.
Quand les éboueurs font la grève, les orduriers sont indignés. On ne peut quand même pas tout leur prendre. Aux pauvres.
Vous avez particulièrement bien choisi vos textes, Christian Olivier, Yolande Moreau, Christian Olivier. Donc c'est l'anticlérical.
Bah c'est Prévert, quoi, ouais. Parce que dans Prévert il y a tout ça.
Il y a plein de choses, hein. Il y a plein de choses, il y a tout. Il y a des ratons laveurs, il y a tout ce qu'on veut.
Il y a la guerre, il y a l'étranger, il y a. Et tous ces sujets sont sur la table aujourd'hui, quoi, encore, quoi, voilà.
Alors justement, quand on voit le spectacle, et les spectateurs n'en font pas l'économie, on pense bien sûr à l'actualité, les revendications sociales des gilets jaunes qui ont déploré l'absence de prise de parole des artistes, d'ailleurs, de leur solidarité. Moi, je voulais savoir quel était votre regard à vous deux, et même à vous trois, hein, sur ce mouvement, notamment vous, Christian Olivier, qui avez toujours eu un positionnement politique, hein, dans votre parcours. Je pense, par exemple, à l'opération Chaos Social en 2004. C'était un mouvement que vous aviez initié pour les sans-papiers. Je pense encore au titre. On vous avait reçu ici pour l'album Démocramocie. Comment vous regardez ce mouvement et est-ce que vous vous y êtes senti impliqué?
De toute façon, on ne peut pas ne pas être impliqué. On est dedans. Je veux dire, c'est un état, je dirais que
Pour autant, ce mouvement-là a déploré l'absence de participation des artistes.
Ouais, ouais, mais ça fait un moment que c'est de toute façon là, c'est la cocotte minute qui est un petit peu en train de sauter, quoi. Je veux dire, c'est pas d'aujourd'hui. C'est le résultat quand même de plusieurs années, de plusieurs peut-être décennies, même je dirais, où effectivement, on parle des oubliés en ce moment, on parle de voilà, tous ces gens aujourd'hui qui n'ont plus la parole, qui n'ont plus. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui.
Et alors pourquoi voilà, les artistes n'ont pas pris la parole à leur côté, d'après vous ?
Je dirais que c'est à eux de prendre la parole, justement. Enfin, je pense que c'est important.
Alors même qu'ils réclament la parole des artistes à leur côté ?
Ouais, il y a eu des moments, nous, quand on a pris la parole, c'était plus pour fédérer, j'ai envie de dire, ouais. Au moment du chaos social.
2004.
C'était pas pour nous prendre la parole, c'était pour donner la parole à des associations, puisque le projet c'était surtout ça, et que des associations aussi se parlent entre elles, puisqu'à un moment donné il y avait plus de communication non plus. Artistiquement c'était aussi un mélange, on voulait faire éclater aussi que le milieu artistique de la musique classique, du rap, de tout, de la chanson se mélange aussi. Donc c'est à nouveau, pour nous, ce qui était important, c'était à nouveau renouer avec la parole, le dialogue, quoi.
Yolande Moreau ?
Mais je trouve que la parole, des fois, elle est prise, notamment par des écrivains. Je suis en train de lire le livre d'Edouard Louis. Et je trouve que leur parole est belle et elle nous parle de ce monde-là, de ces gens justement qui n'avaient pas droit à la parole. Maintenant, par rapport au mouvement, moi, je trouve qu'on marche sur des œufs. Ça me fait aussi très très peur. J'ai peur de la récupération. Je trouve que c'est très mélangé dans les gilets. Donc, je trouve que de ce qui se passe, une révolution, oui, mais pour mettre quoi à la place ? Je trouve que ce qui se passe pour le moment est on marche sur des œufs, voilà. Et je trouve qu'il y a quand même des paroles, même dans le spectacle, que ce soit la parole de Prévert, je trouve qu'elle parle de ces gens-là.
Tout à fait.
On peut pas tout leur prendre au pourvu, je sais pas. Elle parle de ces gens-là. Et il y a une parole qui est pas directe, qui est pas une prise de position pour ou contre le gilet, que je trouve, pour le moment, pas inappropriée, pas adéquate. Mais je trouve que, oui, moi, la récupération par l'extrême droite me paraît extrêmement dangereuse. Quand je vois que les journalistes aussi, qu'on attaque les journalistes ou que la Voix du Nord peut pas sortir, tout ça, je trouve, moi, j'ai peur pour la démocratie.
Juste, je vais revenir sur ce mot œuf que vous venez de prononcer, parce qu'il est question d'omelette et d'œuf dans ouais. Le spectacle de Jacques Prévert. Quelle est la phrase sur les œufs ?
Ah, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Peut-être, oui.
On n'est pas foutu de faire des omelettes sans casser les œufs. C'est ce que dit Jacques Prévert. Vous, Denis Lavant, sur ce mouvement ?
Mais moi, je dirais, pour reprendre les mots de Yolande, c'est qu'on ne marche pas sur des œufs, mais on marche sur des yeux en ce moment. Et c'était flagrant pour moi dans la rue avec Bénédicte, metteur en scène.
Votre metteur en scène, ouais.
Et on a vu des petits enfants de sortie d'une petite classe. Normalement, ils ont des petits gilets jaunes. Et là, on leur a mis des gilets orange pour pas qu'on mélange avec justement une manifestation. Qui est... Ah oui, mais non, c'est flagrant. Oui, c'est flagrant.
Oui, Yolande Moreau est un peu dubitative.
Ah non. Mais... Pour moi, c'est ce qui saute aux œufs, quoi, aux yeux. Et par contre, ce que je trouve admirable, ce qui m'intrigue, ce qui m'intéresse dans ce mouvement, c'est effectivement, c'est un mouvement pour lequel il n'y a pas de leader. Il n'y a pas une figure charismatique qui va mettre ça dans quelque chose de pyramidal. Et ça, c'est là qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe
socialement. Si vraiment,
socialement.
Il ne faut pas récupérer, parce que à travers les mouvements sociaux, c'est quand même... Il y a quand même des manipulateurs derrière.
Oui, mais il faut vouloir être récupéré. Peut-être qu'il y a des gens qui sont justement irrécupérables. Ouais. Espérer.
Retour sur scène pour vous, Yolande Moreau, avec ce spectacle. Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas vu au théâtre.
Ouais.
Trop de cinéma, trop de succès.
Mais non, mais moi j'ai commencé tard le cinéma, donc je trouve que je suis une débutante en cinéma.
Toujours.
Et j'ai fait beaucoup
de
théâtre.
Avec des Césars, toujours débutante.
Bah, j'ai commencé tard, moi. Et là, c'est l'occasion, je dirais. J'ai refusé par beaucoup de choses théâtrales et là c'est la rencontre avec Christian Olivier, avec les musiciens, de me dire ce projet-là me plaît, avec Prévert bien sûr, et donc je me fais plaisir.
C'est vrai que vous avez commencé par le théâtre, hein, et puis toute forme de théâtre, la troupe de Jérôme Deschamps bien sûr, le théâtre pour enfants, le théâtre expérimental, vous avez même travaillé le mime, vous avez ça en commun avec Denis Lavant. Le théâtre expérimental c'était quoi ? Ça y est, il est en train de faire du mime. Alors c'est tout sauf radiophonique. Je préfère quand vous sifflez avec votre nez, Denis Lavant. Le théâtre expérimental, ça, c'était quoi ?
Oh, mais je me rappelle des spectacles qu'on avait fait adolescente. Oh, le flot de l'âme, grâce immaculée. On se mettait tout nu. Je le ferai plus.
C'est vrai, vous le feriez plus. Vous le feriez plus.
Non.
Pour quelle raison?
C'est moins joli.
Bon, il faut pas spécialement être joli pour pouvoir se mettre nu si on vous le demande sur un plateau ou au cinéma, si.
Moins envie.
Si non, on vous demande, Christian Olivier, on vous le demande pas.
Non, pour l'instant, on me l'a pas demandé.
Vous aussi, le théâtre est important dans votre formation.
Pardon?
Le théâtre est important aussi dans votre formation.
Le théâtre, moi, j'ai fait quelques petites expériences de théâtre, mais surtout, ouais, j'ai pendant une période mangé du théâtre, toute la période Chéreau, toute la période Brook, Nouchkine. Donc là, j'étais au théâtre tout le temps, et c'est vrai que c'est
sans avoir envie de monter sur scène et de se joindre.
Disons que moi, j'étais déjà sur les planches avec la musique, mais par contre, ça avait une résonance et une répercussion. En tout cas, moi, les concerts, c'est aussi le corps, c'est aussi l'espace, c'est le corps, c'est le silence. Et tout ça, ça vient.
Et ben justement, c'est ce que l'on voit quand on est au théâtre du Rond-Point, quand on vous voit tous les deux, parce qu'il y a vraiment deux présences un petit peu différentes. Et je me demandais justement, Yolande Moreau, comment on travaillait sa propre présence quand on a à côté de soi quelqu'un qui vient par exemple chanter devant le micro et qui tape des mains pour que le public entraîne le rythme. Quelque chose que vous ne faites pas, vous, de votre côté. Comment vous vous positionnez l'un à l'autre?
Il y a quelque chose de joli. C'est Scott, l'accordéoniste, l'audio, me disait, mais j'ai un ami qui est venu voir le spectacle et dit, lui, on sent l'artiste de scène qui va chercher les gens. Et moi, je les fais venir. Mais on a une approche différente. Moi, j'aime bien regarder.
Bien sûr, je vous vois spectatrice quand il chante et qu'il fait applaudir le public, ouais.
Oui, et puis c'est un morceau qui est au milieu du spectacle, donc c'est bien aussi pour une libération, je trouve, dans la salle où les gens applaudissent. Et, de toute façon, des fois ils sont tentés de le faire, et puis bien avec cette musique.
C'est un jeu aussi.
Ouais. C'est un jeu.
Pour moi, c'est ludique aussi. Ça fait partie, je dirais, que dans Prévert, il y a aussi l'humour. Et alors, c'est une petite case, mais enfin pour moi, en tout cas, sur ce passage-là, mais il y a le jeu, quoi. Voilà, c'est de s'amuser avec ça aussi, quoi.
Yolande Moreau?
Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Et puis, il y a plein d'autres moments. On a fait attention, nous, que le spectacle ne se construise pas comme un récital de chant. C'est-à-dire, on n'applaudit pas à la fin de chaque morceau.
Mais quand même, les gens sont tentés de le faire.
Et puis, ils le font de temps en temps, mais pas systématiquement. Et donc, il y a le spectacle, un fil, ça se déroule, les musiques s'enchaînent, des fois ils applaudissent, mais pas toujours. Et je pense que les gens sont heureux à la fin du spectacle de se dire qu'ils ont vu un éventail de choses.
Vous avez sur scène une élocution très lente, on va dire.
Ah, je suis belge, moi, je ne suis pas passée.
Quelque chose qui rappelle pour certains, parce que je l'entendais à côté de moi, ça rappelle les Deschiens. Ça vous ennuie pas chaque fois que l'on rappelle cette origine-là pour une grande partie du public?
Oui, même pour moi, c'est pas très Deschiens. En plus, même le Deschiens, moi, au début, je travaillais avec Deschamps. Je devais me faire répéter parce que je trouvais qu'il parlait très vite. C'était des Français. Je comprenais rien. Je devais me faire, mais qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi c'est drôle? Je comprenais pas. En plus, je riais pas au même moment qu'eux. Parce qu'en Belgique, on rit pas des mêmes choses, en fait.
J'ai eu peur que vous me disiez, en Belgique, on ne rit pas. Vous voyez, il y a une petite ponctuation.
On rit beaucoup, mais on ne rit pas des mêmes... On n'a pas le même humour. On ne sait plus germain chez nous. C'est-à-dire, c'est anglais, germano, je ne sais pas quoi. Ouais. On ne rit pas des mêmes choses. Et moi, je ne riais pas au début. Je ne comprenais rien de ce que mes collègues disaient. Je vais me faire répéter. Je riais, mais à retardement.
Et là, vous comprenez tout.
Beaucoup plus, je vis en France.
tout va bien. Mais pas à Paris.
Non, je vis en Normandie, moi.
Pour quelle raison?
Parce que je suis très campagne, je vis à 1 heure de Paris, c'est quand même pas loin. Je suis une femme de luxe, j'aime bien la campagne, le silence, et j'aime bien la ville pour ce qu'elle m'offre de rencontres, de possibilités. J'aime bien la ville. Je suis une femme de luxe.
Une femme de jardin?
Aussi, oui.
Vous plantez?
Je plante et je déplante.
Vous êtes comme Catherine Deneuve, en fait.
Oui, elle aime bien ça aussi, pareil.
Et vous, Christian Olivier?
En ce moment, je plante pas énormément. je plante d'autres trucs, quoi, mais je suis plutôt Paris-banlieue, moi. Voilà.
Les Têtes Raides, ça se reforme bientôt?
Têtes Raides, il paraît qu'ils sont en discussion pour...
C'est ce que j'ai pu lire, c'est pour ça que je vous pose la question.
Pour fêter les 30 ans de Ginette, quoi.
Ouais.
Voilà. Bon, c'était en 2018 quand même, les 30 ans de Ginette.
Ouais, mais Ginette est flexible. Mm-hmm. Donc, mais l'année prochaine, normalement, on devrait retrouver Tête Raide sur les routes.
Ouais. Et ça vous convient? Ça vous va? Parce que vous dites qu'ils sont en train de réfléchir. Bah, comme si vous étiez exclu de la discussion.
Ouais, disons que chacun reprend un peu le sport.
Est-ce que c'est physique être teinté de raide
physique pour être là au bon moment, quoi.
Bah, là aussi, il faut être physique, ouais. Parce que je regardais la programmation, la suite de la tournée. Donc là, vous êtes jusqu'au 10 février au Théâtre du Rond-Point. Donc vous êtes bien stabilisé. Mm-hmm. Mais ensuite, le 19 mars à Épinal, le 20 à Lons-le-Saunier, le 21 à Nevers, le 22 et 23 à Caluire. Chaque jour, une nouvelle ville.
Ouais, c'est la route, quoi.
Ouais.
Bah, les tournées, ça fait partie en tout cas de ça, et c'est ça qui est même super, d'aller à la rencontre des gens, des villes.
Ça veut dire qu'on ne peut pas programmer un spectacle plus de 2 jours ou 3 jours en France aujourd'hui?
Quand on dit en France, c'est-à-dire hors de Paris?
Ouais, au théâtre, ouais.
C'est peut-être plus compliqué. Nous, en tout cas, là, je reviens plus sur Tête Raide, on l'a déjà fait, par exemple, s'installer. Il y a plusieurs spectacles où on est resté 3 semaines, 4 semaines.
Ouais, c'est pour ça que je vous pose la question. Voilà.
Donc c'est faisable.
Mais pas pour le théâtre vivant. Enfin, pas pour le théâtre.
Je dirais que peut-être faudra se poser la question. Mais...
On vous retrouvera donc sur la route à partir du mois de mars. Mais pour l'instant, Prévert, c'est au Théâtre du Rond-Point à Paris jusqu'au 10 février. Vous restez avec nous, Christian Olivier et Yolande Bourreau. On va parler aussi théâtre et clown avec Denis Lavant dans quelques instants. Tout de suite, c'est pas Prévert, mais c'est aussi bien, c'est Baudelaire avec François-Marie sans The Atlas Mountains. Promesse d'un visage, un extrait des Fleurs du Mal.
Pâle beauté, tes sourcils surbaissés, d'où semblent couler des ténèbres. Tes yeux, quoique très noirs, m'inspirent tes pensées, qui ne sont pas du tout funèbres.
Promesse d'un visage. Promesse d'un
sont d'accord avec tes noirs cheveux, avec ta crinière élastique. Tes yeux languissamment me disent si tu veux, amant de la muse plastique, suivre l'espoir qu'en toi nous avons excité, et tous les goûts que tu professes. Tu pourras constater notre véracité, depuis le nombril jusqu'aux fesses.
Promesse d'un visage. Promesse d'un visage.
Au bout de deux beaux seins bien lourds, de larges médailles de bronze, et sous un ventre uni, doux comme le velours, bistré comme la peau d'un bonze. Une riche toison qui vraiment est la sœur de cette énorme chevelure, souple et frisée qui t'égale en épaisseur, nuit sans étoiles, nuit obscure.
Promesse d'un visage.
Rendez-vous.
Derrière moi, la porte s'ouvrit brusquement. Une voix de femme étouffa une exclamation de surprise. Ah !
Laurent Goumard.
Ça n'est que moi. Auguste. Auguste. Connais-t-on ?
Sur France Inter.
Bah, si, connaît Auguste, c'est vous, Denis Lavant, dans Le Sourire au pied de l'échelle, dans une mise en scène de Bénédicte Nécaille, d'après un texte d'Henri Miller. Il disait d'ailleurs que c'était le texte le plus étrange qu'il ait écrit. On va y revenir. Comment vous avez rencontré ce texte?
Écoutez, par hasard, pas, c'est jamais totalement hasard. Et ça tombait très bien. Il y a 30 ans de ça.
Ouais.
Quand j'étais en plein arrêt du fameux tournage des Amants du Pont-Neuf. Mmh. On ne présente plus. Non. Carax. L'hiver 89-90, j'avais un petit break, un break qui était indéterminé comme longueur, et puis j'ai joué une pièce de Brecht, mais ça c'est Le Chien mort, petite pièce de Brecht. Et j'ai rencontré un jeune écrivain à l'époque, Pierre Escot, qui a continué à écrire depuis, et qui m'a fait cadeau de ce texte. Et pour moi, ça a été lumineux. C'était solaire. Alors que c'est un texte qui n'est pas forcément joyeux, qui a une grande mélancolie, qui est plutôt lunaire, qui est plutôt nocturne. Mais ça m'a fait, si vous voulez, vous voyez là, comme ça, la couverture.
La couverture jaune.
C'est l'effet que ça m'a fait.
Ah ouais.
Orange pétant avec le sourire au pied d'échelle. Rien que le titre, tout ça, cette alchimie-là, de couleur et de sens. Et le texte, j'ai trouvé, ça m'a fait de l'effet, forcément. À l'époque, parce que c'est un clown qui est en quête de son identité, qu'est-ce qu'il doit être, qui il est, lui, s'il doit se décarcasser, se changer, incarner le comique, le dérisoire, l'hilarant, ou être lui-même, ou communiquer de la joie. Et moi, avec ma problématique à l'époque, Alex, le clochard des Amants du Pont Neuf, j'étais vraiment en perdition aussi. Donc forcément, ce texte, il s'est répercuté vastement en moi. Et quand Bénédicte Necker, il m'a proposé 30 ans plus tard de le jouer, j'ai dit, ah bah ouais, peut-être que bien que ça a retenti encore.
Vous étiez vraiment en perdition à l'époque des Amants du Pont Neuf?
Bah écoutez, j'ai frôlé des moments critiques quand même. Je pourrais vous raconter, mais ça ferait des semaines pour raconter
un truc,
tout le bazar.
Non, mais un truc par exemple.
Un truc, bah ouais. Écoutez, il y a un moment donné, surtout dès le début du tournage, c'est-à-dire comme on a commencé très fort par l'errance d'Alex sur le boulevard Sébasto en état vraiment second, quoi, ouais. en zombie alcoolisé, ouais. au milieu des voitures, bah, je me suis mis en état, quoi. Pour faire ça, on était à une recherche d'extrême
studio alors.
Acteur studio ou acteur studio, ça dépend. On dirait plutôt acteur studio, c'est plutôt le cas à cette époque-là.
Donc vous étiez complètement bourré.
Et donc il y avait une telle recherche d'authenticité que ça m'a fait peur. C'est à un moment donné, effectivement, c'est pour ça que je réfute un peu la méthode acteur studio, etc. Parce que de coller au personnage, à un moment donné, il y a plus de jeu. Le jeu, c'est justement quand il y a encore une possibilité de bouger à l'intérieur entre soi et le personnage. Et d'avoir cette conscience-là, d'être dans une entreprise ludique et pas de subir. Et là, je commençais à subir, je me dis, mais ils veulent ma peau, quoi. Et j'ai fugué à deux reprises au moins. Ils m'ont rattrapé, je suis revenu parce que je savais pas où aller d'autre. Mais un peu comme l'Auguste qui fuit le cirque.
Bah justement, on va revenir sur cette pièce.
Donc voilà.
Vous avez traversé comme ça des personnages qui vous ont trop collé à la peau ou vous êtes toujours maintenu un petit peu à l'écart, vous, Yolande Moreau?
J'ai l'impression d'être un peu à l'écart. Il y a des gens qui me posaient la question pour Séraphine. Moi, quand j'ai fini, je mets mes habits au vestiaire.
Très bien. Pas acteur studio.
Même
donc.
Quand c'est fini, ouais. Ouais. Mais nous, ça n'avait pas de fin.
C'est le problème. Mais oui, c'était ça pour les Amants du Pont Neuf. Alors, l'histoire en quelques mots d'Auguste. Il est Auguste, donc un clown hyper célèbre, qui traverse une crise existentielle. Il ne va pas revenir à la fin d'un spectacle pour les applaudissements. Le public va se retourner contre lui. Il va donc quitter le cirque. La notoriété, c'est à peu près ça, c'est pour aller très
vite.
Oui,
c'est un peu grosso
modo. Oui, mais
c'est
très
grosso. C'est pas qu'il revient pas pour les applaudissements. Ouais. C'est qu'il se fait massacrer, parce qu'il reste, ça on peut le dire, parce que c'est quand même le postulat de l'expérience. Il a un numéro qui se clôture par une sorte d'extase au pied d'une échelle, que les gens, ça fait beaucoup marrer, le clown en extase. Mais et ça lui suffit pas, donc il va pousser tellement le bouchon loin, qu'il va rester scotché dans cette extase 30 minutes, et forcément le public va arrêter de rire, s'impatienter, et lui balancer tout ce qui lui traîne sous la main, quoi.
Voilà,
c'est clair.
C'est beaucoup plus clair comme ça. Il va trouver refuge quelques jours plus tard dans un autre cirque, une troupe itinérante, où il s'engage comme homme à tout faire. Extrait.
Le vrai Auguste, lui, personne ne le connaissait. Envahi par les souvenirs de milliers de nuits semblables face au miroir, je compris que cette vie à part, cette existence secrète qui était censée sauvegarder mon identité, n'était absolument pas une vie. Était en fait zéro, pas même l'ombre d'une vie. Je n'avais commencé à vivre que du jour où je m'étais joint à cette troupe. Et cette vie secrète s'était évaporée.
Un commentaire sur cet extrait?
Non, moi aussi je parle lentement.
Ouais.
C'est un petit côté belge. Hein.
Mais c'est vrai, mais vous êtes formé en Belgique. C'est une pièce donc seule en scène, une réflexion sur le métier de clown et au-delà, bien sûr, sur la figure même de l'artiste. Qui est-il? Qui est cet Auguste? Et qui est-il lui-même derrière ce personnage de clown? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu vous-même traverser au cours de votre parcours? À un moment donné, de vouloir se mettre à côté et même d'arrêter, puisque là, le clown va devenir un homme à tout faire avant de reprendre la piste. On va en parler dans quelques instants. Denis Lavant.
Oui, moi, ça m'a pris souvent l'idée de repartir, d'aller ailleurs. En fait, c'est jamais d'arrêter, parce que comme Auguste, c'est-à-dire, il veut arrêter le cirque, mais il est en perdition dans la ville. Il est d'une tristesse terrible et fondamentale. Et finalement, il retrouve un cirque. Et il se met au service de ce cirque, mais dans les tâches les plus humbles. Et effectivement, on quitte jamais vraiment son endroit, quoi, son lieu de vie, en quelque sorte. Pour moi, c'est le théâtre. Et j'ai toujours, je suis toujours retourné au théâtre. Je me suis plus méfié du cinéma. Je me suis plutôt enfui du cinéma, parce que, j'ai trouvé quelque chose qui était périlleux psychiquement.
Au cinéma,
en tout cas dans ce que j'ai abordé, oui, dans le fait même d'être jour après jour, de se mettre en osmose avec un personnage, de chercher, d'être en quête de ça, donc de pouvoir te plonger complètement. Et plus ça dure longtemps, plus on a du mal à s'en défaire. Alors qu'au théâtre, on est tout de suite dans le rapport public avec les spectateurs qui sont complice de votre transformation, de l'illusion, de la fiction qu'on est en train de projeter. Et donc, il y a quelque chose de beaucoup plus sain pour moi, S.A.I.N., n'est-ce pas, au théâtre.
Moi, j'en avais pas vu d'autres mots.
Ah, non plus, non.
Aussi, S.A.I.N.T.
Des fausses interprétations. Et donc, voilà. Mais tout le temps, moi, je m'efforce... oui, pas d'arrêter. Je suis incapable d'arrêter. C'est ma raison de vivre. C'est mon moteur, quoi. C'est mon mais de changer, de me déplacer, de retourner à la case départ, de passer par là, d'aller ailleurs, de pas être cantonné dans un type de carrière, de trajectoire.
Et ne pas être cantonné dans un type de rôle, mais vous avez beaucoup joué, on parlait tout à l'heure de Clochard Céleste, par exemple, pour les Oscarax. Aujourd'hui, de marginaux métaphysiques, des choses comme ça.
Le Père Ubu,
j'ai vu. Par exemple, on ne vous, oui, c'est vrai.
Non, mais merde,
c'est vrai. Ouais, merde.
Et Monsieur Merde aussi.
Mais on ne vous a jamais proposé, par exemple, le contre-emploi, mais énorme, du style de jouer un grand bourgeois.
Si, j'en ai joué un. J'ai joué Marcel Dassault.
Ah, j'avais oublié ça.
Ah bah, vous voyez, vous oubliez des trucs quand même.
Bah ouais.
Marcel Dassault, un téléfilm, L'homme au par-dessus. C'était assez marrant, comme voisinage. Ouais, ouais. On m'en a parlé récemment, c'est pour ça que ça me revient. Mais oui, vous voyez, qui peut être... pourrait s'agir d'un contre-emploi dans ce cas-là.
Ah bah là. Oui, oui, oui.
D'accord.
Et c'était plaisant à jouer.
Très, très plaisant.
Yolande Moreau, vous aussi, vous avez joué des aristocrates.
Oui, mais peu. Mais c'est vrai qu'on me le propose pas d'emblée. Mais ça m'amuse, moi. Dans le Hussard sur le toit, j'avais fait une comtesse. J'aime beaucoup quand on me le propose. Même dans le film de Stéphane Brisé aussi.
Tout à fait, dans Une vie.
Oui. Ouais. Oui. Moi, j'aime bien aussi aller à contre-emploi. Je trouve ça rigolo.
Pour revenir à la pièce, donc, Le sourire au pied de l'échelle, c'est l'histoire donc de ce clown. Il est dans cette troupe, il est l'homme à tout faire de la troupe, mais malheureusement, au concours de circonstances, ou bonheur du hasard, Antoine, qui est le clown de la troupe, va tomber malade.
Oui.
Et donc, Auguste va se proposer, enfin, d'ailleurs au début il est un petit peu circoncis, puisque personne ne lui propose de reprendre le rôle, mais il va donc réussir à avoir ce rôle et de reprendre le répertoire d'Antoine sans pour autant faire oublier Antoine. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les
circonstances. Ben, plutôt, dans les il endosse la personnalité de clown. Il prend pour lui le clown, c'est-à-dire le maquillage, la personnalité de clown d'Antoine en pensant améliorer son numéro. Et voilà, c'est là qu'il se...
C'est là qu'il va se piéger lui-même, ouais. Puisqu'il va remporter un énorme succès. Vous n'avez jamais été clown, vous n'avez jamais travaillé cela. Vous avez été mime.
Oui, un peu, oui.
Un peu ?
Quand j'ai commencé par le mime.
Bah ouais.
Je ne peux pas dire que j'ai été mime. Parce que j'ai fait ma première expression, ça a été le mime. J'ai vu Marceau, j'ai fait des cours d'expression corporelle. Mes premiers petits spectacles avec un public familial, naturellement, c'était des petites pantomimes à la manière de Bip de Marceau. C'est-à-dire, j'ai compris un peu les ficelles du mime, sans aucune technique, mais avec beaucoup d'imagination. Et voilà. Et après, j'ai fait de l'acrobatie. J'ai touché un peu aux arts du cirque, mais jamais dans la piste. Et à un moment donné, en ayant cultivé ça pendant mon adolescence, quand j'ai découvert le théâtre, je me dis « Ah ouais, mais j'aimerais bien faire comédien, quoi. » C'est avoir du texte, comprendre comment on fait avec un texte qui est écrit, qui n'est pas de soi, qui n'est pas sa propre production, et comment on joue les personnages, quoi. Comment ça se fait, ce métabolisme d'un texte, et qu'on ressort ça avec une sincérité. Et forcément, c'est ça qui m'a poussé à me détourner d'un truc qui était évident pour moi, une physicalité, comme on dirait aujourd'hui,
oui,
de danseur.
Tout à fait.
Et d'aller, de me déplacer vers la parole, vers le verbe. Je regrette pas, mais c'était un drôle de
cheminement.
Drôle, ouais, de cheminement. qui m'amène à avoir, finalement, à ce qu'on me demande de prendre en charge des textes particulièrement ardus. Mais ces textes, toujours, ils me passent par le corps.
Par le corps, ouais, ça, on aura
bien compris. La particularité de.
Et c'est ce qu'on peut voir sur la scène du théâtre de l'œuvre. On va y revenir dans quelques instants, mais tout de suite, c'est le temps de votre algorithme musical, Denis Laban.
Bonjour.
Bonjour.
Je viens voir Marion.
Vous avez rendez-vous ?
Rendez-vous ?
On peut avoir de la musique ?
Bien sûr.
Je vois que vous êtes recommandé par Stevie Wonder.
J'adore Tom Waits.
Phil Collins, Kate Jarrett.
Le nouveau rendez-vous ?
Vous aimez Mozart ?
Oui. C'est lequel ?
Le dernier.
Sur France Inter.
Alors je vois que vous êtes très inquiet, mais
Marion Guilbeault
va vous rassurer.
Oui, n'ayez pas peur, ça fait pas mal, Denis Laban. En fait, on va partir de ce que vous écoutez, qu'est-ce qui constitue votre ADN musical, et puis je vais essayer de vous proposer quelque chose de nouveau à découvrir.
Ah d'accord, c'est quoi un algorithme ?
Un algorithme, c'est voilà, c'est ça, c'est ce qui se passe dans les plateformes musicales. Aujourd'hui, vous n'avez rien à faire.
Non, rien à faire, généralement, c'est exactement comme ça que ça se passe.
Alors c'est un algorithme qui commence en live, par un concert auquel vous avez assisté, Denis Laban. Vous deviez avoir une quinzaine d'années, et voilà ce qui se jouait.
Avec cette neige à foison qui coiffe ma toison, on peut me croire à vue de nez, blanchi sous le harnais. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est rien que de la poudre aux yeux, c'est rien que de la comédie, que de la parodie.
Vous aviez une jeunesse punk, dites-moi.
Oui, hein, j'ai remarqué.
C'est la voix de Brassens, bien sûr.
C'était avant 15 ans. Moi,
c'était avant 15 ans ?
Ouais.
Non, c'est pas possible.
Ah bon,
à quel âge ?
Je sais pas.
Ah bah non, quand même, parce qu'il a fait plusieurs fois Bobino.
Ah, 13 ans.
13 ans, voilà, d'accord.
À Bobino.
C'est ça, à Bobino.
Ah, vous avez remarqué la date à Bobino ?
Ouais.
Peut-être, ouais. Ouais, je m'en souviens très bien.
Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de ce concert, justement ?
Bah, du type, bah, c'est avec sa guitare, très, en train de fumer sa pipe sur scène, et qui disait ça, qui vraiment avec un aplomb extraordinaire, qui enchaînait ses paroles, ses poèmes, quoi. Ouais, c'était fascinant, ouais.
C'est vous qui avez décidé d'y aller ou vous étiez emmené par vos parents ?
Pas tellement de décision culturelle à l'époque, quoi. Vous savez, c'est mes parents qui écoutaient beaucoup Brassens. Comme Léo Ferré, Barbara, quoi, un peu le.
Quelqu'un d'autre autour de la table a vu Brassens en concert ?
Non, j'ai pas eu l'occasion.
Non plus. Et vous ?
Non plus.
Personne. Ah bon ? Ah,
bah oui, vous voyez.
Quand même, la chance.
Ça vous distingue, Denis Laban.
De cette période, on sait que vous aimez aussi Serge Reggiani, Bobby Lapointe, bon, plutôt pas mal de chansons françaises. Et pourtant, moi, quand je pense à vous, Denis Laban, j'ai, comme beaucoup de gens, immédiatement une image, une chanson en tête. L'image, c'est ce travelling avec vous courant dans le film Mauvais sang de Léo Scarrax en 86. Et la chanson, c'était celle-là. David Bowie, Modern Love. On a dû souvent vous parler de ce film, de cette scène de Bowie. C'était quelqu'un d'important pour vous, Bowie, avant de jouer ce film ?
Absolument pas.
Ah,
je ne connaissais même pas. Quoi. C'est, c'est un peu Léo qui m'a...
Qui vous l'a fait découvrir ?
Oui, qui a partagé cet univers-là. Et parce que, oui, dès le premier film, Boy Meets Girl, il me semble que je traverse le Pont Neuf avec des écouteurs, avec une chanson de Bowie. Puis là, effectivement, l'enjeu, il y avait un des enjeux de Mauvais sang, de faire une course de plus en plus déséquilibrée, acrobatique, sur Modern Love, qu'on avait répété à l'origine sur un parking avec le chef opérateur Jean-Yves Escoffier. J'avais proposé, puis on a une chorégraphe qui m'avait aidé à trier un peu, puis on s'est retrouvé au cœur de l'hiver, c'est en combien, 85
hein,
rue de l'Ouest. De l'Est ou de l'Ouest ? De l'Ouest, pas d'ailleurs.
De l'Ouest. De l'Ouest.
Ouais, qui a été complètement refait, mais qui était tel quel. Puis on a dit, allez, on y va. Moi, j'ai dit d'entrer à Léo, écoute, je le fais 5 fois. Parce que je savais qu'il avait tendance à multiplier les prises. Et je me suis dit que ça allait être très fatigant avec le froid. Et en fait, on a dû le faire 7 fois. Et entre chaque fois, je rageais d'avoir tant fumé. Je me réfugiais dans une cabine de camion pour me réchauffer, pour récupérer mon souffle. Le pire, c'est que à la pause déjeuner, on a mangé un couscous. Après, ça a été pire. Donc, j'en garde un souvenir d'efforts et de course, en fait, comme dans le film. Et curieusement, juste après la prise, il y a une des assistantes, Régie, qui m'a dit « Ah, c'était incroyable ce qui s'est passé. » Franchement, moi, j'avais que le souvenir de, pas de souffrance, mais d'un truc au finish, quoi, jusqu'au bout de la rue.
Et pourtant, ça a marqué.
De temps en temps.
Ouais, pas que de temps en temps, j'imagine.
Mais c'est vrai que quand j'écoute la musique, ça me remet, ça retentit encore. Je ne vais pas mettre à courir, je serais plus capable de le faire cette course-là.
Quand j'ai préparé votre algorithme, je vous ai vu aussi dans un clip, celui de Uncle. Vous marchez dans un tunnel aussi. C'est très impressionnant, oui, votre déambulation là, avec les voitures qui passent.
Ça, c'est plus récent, je ne regarde pas du tout d'avoir fait.
Ouais, à côté de vous. Alors, ce que votre ADN musical dit de vous, Denis Lavant, qui est aussi un danseur, c'est que vous n'avez pas peur des grands écarts, tant qu'il y a l'authenticité, de l'expérience, du sens. Et du coup, je pense que vous serez sans doute sensible à la proposition de Léo Lalanne. Alors, rien à voir avec le barde aux cuissardes. Hein. Il faut plutôt regarder du côté de Eddy de Préto, Édouard Louis. Léo Lalanne, il s'est construit tout seul. C'est un jeune garçon. Il a eu un bac pro à Nantes. Il est parti à Londres pour pouvoir être lui-même, se nourrir d'art, de musique, de mode, de poésie. Il a été journaliste. Il a fait parler les autres avant de prendre la parole lui-même sur un mode déclamatoire. Décidément, c'est au centre de ce qui se passe aujourd'hui ici. Récitatif, c'est un fan de Cocteau, de Ginsberg, de Nan Goldin. Et comme vous, Denis Lavant, il aime jouer, il aime danser et aussi écrire des chansons introspectives qui ont leur part de théâtralité, un mélange de force et de vulnérabilité.
Sous une averse péjorative, leur virilité fut imposée. Ils avaient peur, peut-être, ou l'envie soudaine de me casser à coups de pédales et de cailloux. Vous êtes des mecs, des vrais, n'est-ce pas ?
Ça vous convient ?
Ça vous donne envie d'en entendre plus ?
Et il m'en faudra davantage. Hein.
Ah, bah oui, toujours ! Vous en voulez toujours plus, Denis.
Je suis d'accord avec vous, 20 secondes. Il s'appelle Léo Lalanne. Le titre s'appelle Caïd.
Caïd.
Et c'est extrait d'un premier EP qui va paraître au printemps, une des voix à suivre en 2019.
Merci à vous trois, merci Yolande Moreau, merci Christian Olivier. On vous retrouve donc jusqu'en février, mi-février, au Théâtre du Rond-Point à Paris avant de partir en tournée. Et vous, Denis Lavant, au Théâtre de l'œuvre, vous levez le chapeau. Mais je retrouve exactement la coiffure comme dans la pièce jusqu'au 17 février à Paris au Théâtre de l'œuvre. Il y a une tournée après ou pas encore ?
Bah, on doit le reprendre au théâtre, comment ça s'appelle, le Lucernaire.
Oui, à Paris toujours.
17 mars, avril, après, je n'ai plus les dates exactes. Et pour l'instant, bah, c'est à venir. À Moscou, on doit le faire une fois.
Ah oui. Ah bah c'est la patrie des clowns, tout tombe bien.
Ah oui. Ah oui.
On se quitte tout de suite avec une histoire de pied. I could not believe it, could not believe our eyes. The thing that I saw down there, down between her thighs. I can see her over and over again. Roll over at the lock, holy broken skin. If I turn it over, would you make it work? When you plug it in, will you dig the dirt? Can you count me sideways to that other realm? Can you take me up there? Can you take the helm? Beat me full of promise. I pray in Africa, my refugee is throbbing underneath the sod. Deep inside a man, a loyalty dissolves. Deep inside a stranger, necessity absolves. Feat, le nouveau son de Fat White Family pour patienter jusqu'au prochain album attendu pour le 9 avril sur le label Domino. Une programmation, c'est le pied de Jean-Baptiste Audibert. Et bien voilà, le NRV, première partie, c'est fini. On va se retrouver après le journal dans 15 minutes avec ça.
La guerre, c'est des tirs. La guerre, c'est des bombes. La guerre, c'est des tortures.
Journaliste de guerre, les femmes sont sur le front. Le rendez-vous est pris, alors à tout de suite.